Troisième jour de notre déambulation dans la France de la Belle Époque. Cette semaine, nous sommes entrés par effraction dans les appartements bourgeois de la capitale grâce à Arsène Lupin, le héros de Maurice Leblanc. Puis nous avons pénétré dans les modestes ateliers de couture fréquentés par Marguerite Audoux, ouvrière et romancière. La Belle Époque est ce temps de l'enrichissement et des inégalités, mais elle est aussi l'âge d'or des innovations dont Jules Verne se fait l'écho dans ses romans. Il est celui qui met la science en drame, selon le mot d'Émile Zola. Et ce sont ces voyages extraordinaires, témoins de la formidable inventivité de l'époque, que nous allons explorer jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Explorer l'univers du grand maître de l'innovation qu'est Jules Verne, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance Olivier Sauzereau, historien des sciences, chercheur associé au Centre François Viette de l'Université de Nantes et grand spécialiste de l'œuvre de Jules Verne. En fin d'émission, le journal de l'écho vous sera présenté, comme chaque jour, par Xavier Martinet.
Entre 1000 et 1820, en moyenne, le taux de croissance du PIB par tête est de 1,19% par an, ce qui est quand même très petit, c'est un petit peu, il y a un petit frémissement, d'accord? Alors peut-être que le fait qu'il y ait commerce, que le commerce s'étende, qu'il y ait quand même des inventions, qu'il y a même des améliorations, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais c'est mieux que zéro, mais c'est quand même très bas. Et alors tout d'un coup, entre 1820 et 1870, la croissance, le taux de croissance mondial du PIB par tête monte à 0,5. Mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, il n'y a qu'essentiellement que deux pays qui sont actifs, c'est l'Angleterre d'abord et la France après. Ça veut dire que eux, ils croissent à beaucoup plus que 0,5. Le reste, c'est 0 et la moyenne, c'est 0,5. Donc pour avoir une moyenne à 0,5, quand il n'y a que la France et l'Angleterre, c'est que vraiment, c'est un super décollage pour la France et l'Angleterre, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment un phénomène extraordinaire, c'est très récent. Vous vous rendez compte, c'est même pas 200 ans d'âge. Et voilà. Et on essaye vraiment de comprendre ça comme on a essayé de comprendre le Big Bang en physique, quoi. C'est-à-dire de comprendre d'où ça vient, pourquoi tout d'un coup ça s'est passé et à ce moment-là.
Bonjour Olivier Sauzereau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pourquoi la croissance s'accélère-t-elle à partir du début du 19e siècle? C'est la question que posait l'économiste Philippe Aguillon lors de son cours au Collège de France le 2 octobre 2018. L'une des réponses, c'est bien évidemment l'innovation technique qui a passionné Jules Verne. Comme l'écrit Karl Marx, c'est la machine-outil qui a inauguré au 18e siècle la révolution industrielle, Olivier Sauzereau.
Ah bah, indiscutablement, je ne suis pas du tout économiste, mais le 19e siècle est un siècle d'innovation technique dans le prolongement du 18e. Et on va avoir l'occasion, je pense, d'en parler dans le cours de l'émission. Et Jules Verne est un témoin absolument privilégié pour nous mettre en lumière le développement du train, la rapidité, la vitesse et toutes ces innovations à la fois scientifiques et techniques qui vont complètement changer notre manière d'appréhender le monde.
Ce dont il faut se rendre compte, c'est que Jules Verne, né en 1828 et mort en 1905, va connaître dans sa vie deux révolutions industrielles, Olivier Sauzereau.
Effectivement, ce qu'il connaît, c'est la révolution, c'est cette révolution industrielle, le progrès scientifique qui va tout à fait être considérable, qui va être le triomphe de la science de Newton. Il y a quelques dates qui sont particulièrement intéressantes. C'est 1838, donc Jules Verne a 10 ans, et l'astronome allemand Bessel est le premier à mesurer la distance d'une étoile, chose que l'on essayait de faire désespérément depuis l'époque de Galilée, et on se rend compte ce que l'on soupçonnait bien évidemment, mais là on prend conscience de la distance considérable des astres. Cette étoile qui s'appelle 61 du Cygne, qui est mesurée pour la première fois donc en 1838, se révèle être à 100 000 milliards de kilomètres. Et puis quelques années plus tard, en 1846, donc là Jules Verne a 18 ans à ce moment-là, l'astronome français Urbain Le Verrier fait cette découverte extraordinaire, qui est vraiment le triomphe de la science de Newton, uniquement par le calcul et les lois de la mécanique céleste. Eh bien, on va calculer et déterminer et découvrir une planète inconnue jusqu'à présent, une planète X, la planète Neptune, qui va être déduite par le calcul uniquement par les perturbations qu'elle engendrait, les perturbations gravitationnelles sur une planète qui avait été découverte dans les années 1780, qui est la planète Uranus. Mmh. Et c'est vraiment très symbolique, effectivement, de ce siècle extraordinaire du 19e, où on a le sentiment que tout est mesurable, tout est maîtrisable et que l'on a les outils, que l'humain, l'occidental, a les moyens désormais de déterminer le monde afin de pouvoir l'explorer et le coloniser. Et
oui, c'est une période où domine le scientisme, cette idée que la science mène nécessairement au progrès et puis qu'elle pourra résoudre tous les problèmes humains. On a vraiment cette vision linéaire de l'histoire, Olivier Sauzereau ?
Voilà, effectivement, et qui, en même temps, quand on lit Jules Verne, eh bien, on va avoir l'occasion, je penserais, de pouvoir le détailler un petit peu dans le cours de l'émission, on se rend compte que Jules Verne, auquel, au jour d'aujourd'hui, bien souvent, on attribue le chantre du progrès, l'idée que le progrès scientifique et technique va forcément apporter un mieux-être, une façon de mieux vivre, un progrès forcément pour la société, eh bien, on se rend compte que Jules Verne, dès le début, ça aura tendance probablement à s'augmenter au fur et à mesure de son œuvre, mais que dès le début, dès 5 semaines en ballon, a finalement un regard assez critique tout au moins sur une mauvaise utilisation de la science et de la technique. Et on peut s'apercevoir, d'ailleurs se rendre compte que toutes les machines extraordinaires que Jules Verne imagine dans son œuvre, ou tout au moins que ses héros inventent et imaginent, le sous-marin Nautilus, l'obus de la Terre à la Lune, autour de la Lune, etc., sont immanquablement, irrémédiablement, toujours détruites à la fin. Ça se passe d'une certaine manière, toujours mal, d'une certaine manière, à la fin. Donc finalement, Jules Verne est critique, tout au moins, il nous dit attention à une mauvaise utilisation de toutes ces innovations techniques qui sont en train de se mettre en place ou qui vont se mettre en place.
Alors on va revenir sur ces critiques de la modernité, Olivier Sauzereau, mais d'abord racontez-nous peut-être comment Jules Verne, qui est né dans une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs, va se tourner vers la littérature.
Alors, Jules Verne n'est pas véritablement... Il naît à Nantes, alors il naît dans un univers d'armateurs, de navigateurs. Sa famille n'est pas directement des... ne sont pas des armateurs. Enfin, son père, en tout cas, est un avoué nantais. Il n'est pas nantais d'origine. C'est une charge d'avoué qui se libère à Nantes, qui fait que, dans le début des années 1820, le hasard, finalement, l'amène à Nantes. Il rencontre une charmante jeune femme, Sophie Allotte de Laffut, qui, elle, est une fille d'armateur. Donc, effectivement, il y a une partie du côté maternelle de Jules Verne qui est dans le monde des bateaux. Il a notamment un grand-oncle qui s'appelle Oncle Prudent, qui est un personnage un peu excentrique, qui est allé à Caracas, ce qui faisait complètement rêver Jules Verne, qui venait toujours à pied de Brins, qui fait une quinzaine de kilomètres pour venir à Nantes, quelles que soient les conditions. Un personnage tout à fait haut en couleur, qui faisait des parties de jeux de loi à je ne sais quelle heure de la nuit, notamment avec Jules Verne, ce qui explique la fascination de Jules Verne pour le jeu de loi. Et cet Oncle Prudent avait été armateur, et ça a beaucoup inspiré Jules Verne. Alors, Jules Verne, normalement, aurait dû devenir avoué lui-même. Il a d'ailleurs son diplôme d'avocat. Et pourquoi Jules Verne va être fasciné, finalement, par la littérature ? Plusieurs raisons. Tout d'abord, ses parents sont des amateurs de littérature, de poésie. On est dans une famille aimante, unie, amie de la poésie, de la littérature, que ce soit du côté de la mère ou du père. Le père écrit, il écrit des poèmes, il écrit des textes. C'est à la fois quelqu'un qui est très conservateur, très catholique, très impliqué dans la fabrique d'une des églises de Nantes. La maman de Jules Verne, elle, et Sophie, est quelqu'un de peut-être plus artiste, plus très musicienne. C'est elle, sans nul doute, qui donne une sorte d'atmosphère poétique, théâtrale, musicale dans la maison. Et Jules Verne dira un jour de sa maman que la puissance d'imagination de sa mère était plus forte que les machines à vapeur les plus puissantes de l'époque. Ce qui était un compliment pour sa maman. Absolument. Quand on connaît l'amour qu'avait Jules Verne pour les machines à vapeur. Donc il est vraiment dans une atmosphère où on s'écrit des petits poèmes, qu'on se cache sous l'assiette, avoir un petit repas de famille, on se joue des pièces de théâtre, en famille, en amis. Donc il baigne quand même dans cet univers.
Et c'est pour ça qu'il commence par le théâtre, Olivier Sauzereau, avant d'en venir au roman scientifique.
Le théâtre est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis il y a avant le théâtre, il y a cette atmosphère. Vous avez eu raison de parler vraiment des navigateurs et des armateurs. C'est que chaque fois que Jules Verne nous parlera de Nantes,
Il ne nous parle pas du château des Ducs de Bretagne, il ne nous parle pas de ce magique passage Pommeraye que vous connaissez certainement, construit alors qu'il est tout jeune adolescent. Il ne nous parle pas de la cathédrale ou du tombeau du dernier duc de Bretagne. Non, il nous parle toujours du port. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, de révélateur et qui correspond bien à l'atmosphère qui régnait à Nantes à cette époque-là, qui est l'un des ports les plus importants de France et où toute la vie, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, est tournée autour du port, y compris l'économie, on va dire, qui a priori n'a rien à voir avec le port. En réalité, il travaille. La fabrication des biscuits, par exemple, est liée, bien entendu, au fait de pouvoir fournir des biscuits aux marins, etc.
Le port le fascine, Olivier Sauzereau, mais aussi les expositions universelles. C'est là qu'il va commencer à puiser les idées de ses romans, en particulier l'exposition universelle de 1867, où sont exposés des sous-marins, des scaphandres et même un aquarium géant. Tout ça, ça va lui inspirer 20 000 lieues sous les mers, l'un de ses grands romans.
Oui, oui, absolument. Les expositions universelles. Et puis, c'est le siècle aussi des grands vulgarisateurs. C'est le siècle de la presse, des vulgarisateurs professionnels, que ce soit dans la presse ou dans des magazines spécialisés, des gens comme Louis Figuier, comme Camille Flammarion, dont Jules Verne sera des fervents lecteurs de toutes ces publications, qui vont nourrir véritablement Jules Verne. Donc c'est un partage effectivement entre cette atmosphère nantaise dans laquelle il a vécu les 20 premières années de sa vie et auquel il va y revenir jusqu'à l'âge pratiquement de 60 ans et qui vont le nourrir, cet esprit d'ailleurs, cet esprit d'aventure, avec la traite, on aura l'occasion d'en reparler, c'est une magie blanche et noire, à la fois qui est pleine de fantasmes, pleine de fascination et à la fois d'aspects totalement terrifiants. Le fait que lorsqu'il se promenait sur les quais de la fosse, il y avait le thé, il y avait le café, il y avait tous ces épices, bien entendu, qui le nourrissaient. Le fait aussi qu'il n'y avait pas la mer à Nantes. On a tendance, la communication politique souvent nous a laissé croire que Nantes était au bord de la mer. Il y a 40 kilomètres pour aller à la mer. Au jour d'aujourd'hui, pour un Nantais, ce n'est rien du tout. On va se prendre, c'est un petit peu difficile en ce moment d'aller se prendre des huîtres le soir et se faire un petit apéro au bord de la mer. Mais en théorie, sinon, c'est sans aucune difficulté. À l'époque de Jules Verne, c'est tout autre. Et Jules Verne devra attendre l'âge de 12 ans pour découvrir la mer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va avoir un rôle énorme, puisque jusqu'à l'âge de 12 ans, il voit toutes les conséquences de la mer par le fait qu'il y a la marée dans le port de Nantes, qui est vraiment le marnage fait que la Loire va monter de 4 mètres ou descendre de 4 mètres, c'est très impressionnant. Il voit les bateaux au long cours, pas les plus gros, mais tout de même jusqu'à des 3 mâts qui remontent au port de Nantes. Il y a cette ambiance de capitaine au long cours. Relisez le premier chapitre de 20 000 lieues sous les mers, c'est comme si on était à Nantes avec ces histoires de monstres des mers, de serpents de mer, de vieux loups de mer, etc. Donc il baigne là-dedans et en même temps cette vraie mer, il ne la voit pas. Donc elle est fantasmée. Alors chez beaucoup de petits Nantais, ça n'aura pas une grande importance, mais chez Jules Verne, ça en a. Et Jules Verne, à 12 ans, il voit enfin la mer, et là, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et c'est ainsi, dans cette période d'essor de la presse, vous l'avez dit, Olivier Sauzereau, que Jules Verne va populariser un nouveau genre littéraire, le roman scientifique. Écoutez cette lecture d'une lettre de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel.
Les critiques les plus autorisées ont salué dans M. Jules Verne un écrivain d'un tempérament exceptionnel, auquel, dès ses débuts, il n'était que juste d'assigner une place à part dans les lettres françaises. Conteur plein d'imagination et de feu, écrivain original et pur, esprit vif et prompt, égal au plus habile dans l'art de nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies conceptions, et à côté de cela, profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce qu'on promet si souvent, ce qu'on donne si rarement, l'instruction qui amuse, l'amusement qui instruit, Monsieur Verne le prodigue sans compter dans chacune des pages de ses émouvants récits.
Le projet de Jules Verne et de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel, est un projet d'émancipation du peuple par la littérature et la vulgarisation scientifique, Olivier Sauzereau.
Oui, Oui. Alors, la rencontre de Jules Verne avec Hetzel qui se fait, alors il y a tout un petit débat sur le moment où elle se fait, est-ce que c'est 1860, 61, 62, c'est en tout cas au début des années 1860. Jules Verne a donc 31, 32, 33 ans. C'est un jeune homme qui a fait le choix contre son père, qui s'est laissé convaincre d'ailleurs, hein, on voit l'ouverture d'esprit de son père, de laisser son fils, qui a pourtant son diplôme d'avocat, eh bien, essayer d'être littérateur, comme dit Jules Verne, d'être un auteur tout d'abord de théâtre. Et Jules Verne a tenté de gagner au théâtre et il ne gagne pas. Il a des pièces qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais pas un véritable succès. Et Jules Verne va se mettre à un moment donné à écrire un grand roman qui va devenir 5 semaines en ballon, qu'il va proposer à l'éditeur Hetzel, qu'il a peut-être rencontré déjà lors de dîners quelques années auparavant. Les choses ne sont pas tout à fait certaines, mais toujours est-il que la lecture de ce roman, 5 semaines en ballon, qui est un roman géographique, un roman d'exploration, qui met en évidence cette découverte de l'Afrique en étant la plus fidèle possible par rapport aux connaissances liées aux découvertes des explorateurs contemporain, fait que, et le succès de 5 semaines au ballon, qui est tout à fait considérable, Jules Verne passe en quelques semaines de l'ombre à la lumière, fait que progressivement, en 3 ans, Hetzel a une idée, et ça c'est certainement une idée de l'éditeur, qui, comme il dit, est le metteur en scène du génie théâtral de Jules Verne, qui est l'idée de l'éditeur de créer un cycle romanesque. Hetzel a déjà travaillé avec Balzac, avec la comédie humaine. Il connaît le poids des cycles, l'importance des cycles romanesques. Et il a cette idée, très certainement que c'est de lui. Alors, nourri avec les discussions qu'il a avec Jules, bien entendu, au Café Caron à Paris, de longues discussions dans l'arrière boutique de ce café, à la décoration Louis-Philippe Hard qui était restée. Et ils ont ensemble l'idée, mais certainement d'abord que c'est Hetzel qui le propose, de créer ce cycle qui va devenir le cycle des voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus.
Un cycle de 68 romans, Olivier Sosereau.
62 romans. Et 18 nouvelles. Voilà. Ce qui fait le chiffre magique de 80 romans et nouvelles, dont l'objectif qui est donné dès 1866, dans la préface du premier roman fondateur, véritablement de ce cycle, qui est le voyage et aventure du capitaine Atterras, qui est de raconter l'histoire de l'univers, d'entraîner ses lecteurs dans toutes les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la terre, sur tous les continents, dans les airs, dans l'espace, jusqu'aux limites des mondes connus et inconnus.
Et pour cela, Jules Verne va côtoyer de près les scientifiques de son époque, en particulier les géographes. Il veut toujours être au plus près dans ses romans des dernières découvertes scientifiques, Olivier Sosereau.
D'être au plus près, alors avant même d'écrire ses premiers romans, il y a une rencontre qui va être essentielle pour Jules Verne, qui se fait dès les années 1850, c'est la rencontre de Jacques Arago. Alors Arago, on le sait tous, c'est une grande famille de savants. On connaît surtout François Arago, qui a été le directeur des observations à l'Observatoire de Paris et ministre important donc durant la 48, à l'origine de l'abolition de la traite négrière. Et Jacques Arago, qui est le frère, est un grand savant explorateur, devenu aveugle, et un auteur, un écrivain, et c'est une amitié qui va naître entre le tout jeune homme, qui est encore un étudiant, un débutant au théâtre, et Jacques Arago, qui va l'initier à la géographie, à l'exploration. La géographie, c'est la grande passion de Jules Verne. Et la conséquence, d'ailleurs, directe de la publication de 5 semaines en ballon, de son succès de 5 semaines en ballon, c'est qu'il va être élu membre à part entière de la Société de géographie de Paris, qui est la grande société savante de cette époque-là, ce qui fait qu'il devient l'égal des grands géographes, des grands savants, des explorateurs qu'il va donc du coup côtoyer. Il fait parfois relire des passages pour se faire critiquer. Il emploie parfois même des scientifiques qu'il va payer pour éventuellement avoir tous les calculs nécessaires. Je pense notamment au roman Sans dessus dessous, dont on aura peut-être l'occasion de parler, où il engage un polytechnicien. Et il y a a tout un échange, une correspondance, de calculs extraordinaires entre Jules Verne et ce polytechnicien. Pour la petite anecdote, le dernier chapitre de ce roman Sans dessus dessous, Jules Verne avait absolument tenu auprès de son éditeur, qui avait accepté, peut-être de mauvaise grâce, de faire publier un dernier chapitre, qui est en fait écrit par cet ingénieur, qui s'appelle Albert Badoureau, où Jules Verne, qui est toujours très drôle, avait mis en titre, c'était un titre du genre « Voici un chapitre dont peu de lecteurs iront probablement jusqu'au bout ». Et effectivement, quand vous lisiez ce chapitre-là, c'était des formules mathématiques, tout exactes, hein, mais à n'en plus finir, et c'était la preuve de Jules Verne qu'il avait autour de lui, eh bien, tout un sérieux scientifique pour pouvoir valider ce qu'il racontait dans son roman.
Et alors, Jules Verne s'intéresse à toutes les sciences, sauf peut-être la science économique dans 20 milieux sous les mers, paru en 1869. La bibliothèque du capitaine regroupe tous les savoirs, sauf l'économie politique. Vous voulez nous lire cet extrait, Olivier Sosereau ?
Ah, écoutez, avec grand plaisir.
On
nous sommes dans le salon du capitaine Nemo. « Capitaine Nemo, dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur un divan. Voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents, et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ?» répondit le capitaine Nemo. « Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet ?»« Oh non, monsieur. » Et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes. 12 000, monsieur Aronnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la Terre. Ces livres sont d'ailleurs à votre disposition et vous pourrez en user librement. Je remerciais le capitaine Nemo et je m'approchais des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature écrits en toute langue y abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelques langues qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ses ouvrages, je remarquais les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet, depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc. y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle, et je compris qu'ils formaient là la principale étude du capitaine.
Merci beaucoup, Olivier Sosereau, pour cette formidable lecture. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce rejet de l'économie politique chez le capitaine Nemo ?
Alors, plusieurs raisons. La première, peut-être, est liée à la vie personnelle de Jules Verne. Jules Verne a été, à un moment donné, avant de rencontrer son éditeur Hetzel et d'avoir le succès qu'on le connaît avec 5 semaines en ballon, succès qui ne s'arrêtera plus jamais ensuite, Jules Verne a eu beaucoup de déconvenues avec le théâtre. Et sans vouloir arrêter le théâtre, tout en continuant à produire des pièces, eh bien, il a été quelque peu obligé, d'une certaine manière, de trouver un travail alimentaire. Et il est devenu agent de change à la Bourse de Paris, pendant une dizaine d'années. Donc Jules Verne a été un témoin dans cette seconde moitié des années 1850 jusqu'à 1800, 1850, 65 à peu près, grosso modo. Il a été témoin de cette folie, on va dire, de la bourse. Il en était aux premières loges. Alors un contemporain qui l'a côtoyé à la bourse disait que Monsieur Jules Verne faisait plus de bons mots que de bons coups de bourse. Voilà, je ne pense pas qu'il a fait beaucoup gagner d'argent à ses clients de toute évidence.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il critique dans ses romans la passion de l'or, l'appât du gain. On le voit notamment dans 5 semaines en ballon. Il pointe du doigt la passion de l'or qui s'empare d'un domestique du docteur Ferguson. Et en même temps, Olivier Sauzereau, beaucoup de ses personnages sont des rentiers dont la fortune repose sur les fruits du capital.
Mais oui, tout à fait. Oui, c'est la plupart de ces héros sont en capacité tout simplement de faire ces voyages extraordinaires sans trop se poser de questions sur le moyen de les financer, tout simplement parce qu'ils ont une fortune qui le permet et qu'ils sont rentiers. Effectivement, c'est le cas de Phileas Fogg, par exemple, et de bien d'autres. Mais en même temps, Jules Verne va critiquer tout au long de son œuvre, hein, du début à la fin, cette folie qui tout d'un coup peut totalement transformer un être. Hein. Je pense effectivement à Joe dans 5 semaines en ballon, hein, quand tout d'un coup le ballon se pose au cœur de l'Afrique, puis il découvre qu'il y a de l'or absolument partout. Et puis le héros Ferguson trouve ça intéressant, il va le noter sur une carte, mais ça s'arrête là. Et puis, le domestique, un peu une sorte de passe-partout, comme dans Le Tour du Monde en 80 jours, qui est un garçon adorable, gentil, mais devient complètement fou. Il dit, mais il faut prendre cet or. Et puis, le docteur Ferguson lui dit, mais ce n'est pas possible. Avec le ballon, c'est totalement impossible. Et à la fin, Joe va devoir s'avouer vaincu, mais il en est complètement effondré. Et Ferguson dit, vois ce que peut la puissance de ce métal sur le meilleur garçon du monde. Mmh. Que de passion, que d'avidité, que de crime enfanterait la connaissance d'une pareille mine. Cela est attristant.
Et puis ce que l'on observe aussi chez Jules Verne, c'est cette opposition entre l'économie et l'art, puisque dans l'un de ses romans qui a été refusé par son éditeur, qui sera publié 15 siècles plus tard, en 1994, il s'agit de Paris au XXe siècle, dans ce roman, il y a véritablement une critique des dérives du capitalisme avec ce monde dominé par les banques au détriment de l'art, Olivier Sauzereau.
Paris au XXe siècle est un roman extrêmement intéressant. Alors l'histoire de ce roman est presque aussi fascinante que le roman lui-même, puisque c'est un roman que Jules Verne propose un peu après le succès extraordinaire de 5 semaines en ballon. Alors, heureusement, on va dire pour la suite, il avait déjà montré la suite d'un autre roman qui était Voyage et aventure du capitaine Atterras. Donc, l'éditeur Hetzel avait déjà d'autres éléments. Parce que Hetzel va refuser d'une manière extrêmement violente Paris au XXe siècle, qui est un roman qui est intéressant à plus d'un titre parce que il nous donne une idée de ce qu'aurait pu devenir Jules Verne si Hetzel lui avait laissé cette possibilité-là. Alors on peut discuter, est-ce que Hetzel a bien fait, est-ce qu'il a eu tort, est-ce qu'il a raison, c'est difficile à dire, puisque bien évidemment, lire aujourd'hui Paris au XXe siècle, en sachant ce qui s'est passé pour Jules Verne et ce qui s'est passé au XXe siècle, naturellement, est une lecture totalement différente que si on l'avait découvert ce roman en 1864 ou 65. C'est un roman où Jules Verne se projette, un siècle plus tard exactement, nous sommes donc dans les années 1960, et c'est un roman qui nous montre là Jules Verne très pessimiste, ce qu'il est d'ailleurs régulièrement, mais là c'est carrément du noir, puisqu'on est dans un Paris, dans un monde qui est dominé par la bourse, par les banques, par l'industrie, par les machines, et c'est un roman où le héros est un jeune garçon qui s'appelle Michel étant le prénom préféré de Jules Verne, hein. Son garçon, son fils s'appelle Michel, tous ses bateaux s'appellent Saint-Michel, Michel Strogoff, Michel Ardan, etc. Et ce jeune garçon, Michel, qui est à la croisée de l'adolescence et de l'âge adulte, est un jeune poète. et qui n'a pas sa place dans cette société.
Et c'est peut-être un roman trop noir, justement, Olivier Sauzereau. C'est peut-être pour cela que Pierre-Jules Hetzel l'a refusé. Mais c'est intéressant de le lire aujourd'hui, effectivement, avec le recul. Alors, quelles sont les grandes découvertes qui transforment la société de la Belle Époque et participent à la formidable expansion de son économie? On continue à en parler, on continue en compagnie d'Olivier Sauzereau et des romans de Jules Verne dans un instant. La bande originale du Tour du Monde en 80 jours, le film de Michael Anderson, sorti en 1956. Nous parlons des grandes innovations de la Belle Époque à travers l'œuvre de Jules Verne sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien des sciences, Olivier Sauzereau. Alors les innovations qui fascinent le plus Jules Verne sont celles qui concernent les transports. Il faut dire que le 19e siècle, c'est une vraie révolution, d'abord pour le transport maritime, Olivier Sauzereau, ce qui va permettre au commerce international de prendre véritablement son essor.
Alors totalement, effectivement, le 19e siècle, enfin, surtout cette seconde moitié du 19e siècle, essentiellement à partir des années 1840, on voit une généralisation de ce qu'on appelle le chronomètre de marine. Pour simplifier beaucoup, on va dire l'ancêtre du GPS, pour simplifier, qui va permettre de offrir aux marins, aux officiers de marine, grâce à des observations astronomiques combinées, de pouvoir déterminer le point en mer d'une façon relativement précise et surtout exacte. C'est le développement d'un réseau hydrographique, de cartes au niveau maritime. Et donc, on a vraiment une généralisation de ces techniques qui vont permettre à la marine de commerce de pouvoir voyager avec une sécurité nettement supérieure à celle que l'on avait avant, avec éventuellement aussi des voyages plus courts.
Et avec des voyages sur des navires qui sont toujours plus gros. Vous racontez, Olivier Sauzereau, que Jules Verne a pu embarquer à bord du premier paquebot géant et plus grand navire jamais construit au moment de son lancement en 1858, le SS Great Eastern.
Ah oui, ça c'est une histoire absolument extraordinaire, qui est un navire un petit peu maudit d'une certaine manière, parce qu'il va jamais tout à fait remplir ses objectifs, mais c'est un navire de tous les superlatifs, et c'est un navire sur lequel Jules Verne, avec son frère Paul, qui est un capitaine, un marin, eh bien, ils vont tous les deux frères, avoir l'occasion de traverser l'Atlantique et d'aller jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York, à bord de ce navire, de ce paquebot, qui était deux fois plus grand que tout ce qui se faisait à l'époque. C'était quelque chose d'absolument incroyable, qui est un navire aussi qui avait une histoire étonnante, puisqu'il avait à un moment été désarmé et retransformé pour pouvoir permettre de poser le câble transatlantique entre l'Atlantique et puis le Royaume-Uni. Donc c'est un navire qui a aussi participé du coup à cette accélération de la transmission de l'information.
Dans les romans de Jules Verne, la mer est partout, même au centre de la Terre, le professeur Lindebrock découvre une mer gigantesque.
D'abord, je ne vis rien. Mes yeux, déshabitués de la lumière, se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurai encore plus stupéfait qu'émerveillé. La mer, m'écriai-je. Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan, s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré et parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert, et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et les radiations splendides de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre des nuits qui n'est qu'une réflexion sans chaleur. Non. Le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la Lune, accusaient évidemment une origine purement électrique.
Voilà un extrait du Voyage au centre de la Terre, lu par la comédienne Anaïs Demoustier, un extrait qui nous montre à quel point la mer et les navires sont omniprésents dans l'œuvre de Jules Verne, Olivier Sosereau.
Oui, 8 romans sur 10 chez Jules Verne sont vraiment des romans maritimes, y compris des romans qui, a priori, sont très éloignés de ce domaine, comme Voyage au centre de la Terre. Et le bateau est l'instrument de transport le plus présent chez Jules Verne, et tout particulièrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le voilier, puisque le développement de la machine à vapeur, des bateaux à vapeur, sont loin d'avoir donné déterminé la fin des grands voiliers. C'est la Première Guerre mondiale, véritablement, qui va arrêter le développement des grands voiliers. Et le voilier est quelque chose qui est vraiment très très présent chez Jules Verne. C'est un amoureux de la mer, et il nous en parle merveilleusement bien.
Amoureux de la mer et amoureux des airs aussi, à la fin du 19e siècle, correspond à l'essor des aéroplanes. Et là encore, Jules Verne suit ses inventions de près et les retranscrit dans ses romans avec toujours ce souci de la crédibilité scientifique, Olivier Sosereau.
Oui, plus ou moins, mais en tout cas, il en est fasciné. Son premier roman, 5 semaines en ballon, nous parle d'un ballon, alors un peu d'un type nouveau, on peut en discuter, enfin voilà, qui effectivement va permettre de traverser, de survoler toute l'Afrique et d'être un point d'observation tout à fait extraordinaire. Et Jules Verne est fasciné par le ballon. Il fera une toute petite ascension en ballon, pas très longue, hein, je crois d'une, je sais plus, c'est une heure, je crois, quelque chose comme ça, ou 50 minutes, qu'il racontera d'ailleurs dans un petit texte. Il est fasciné par le ballon et il est un ami de Nadar. Nadar, le grand photographe du 19e siècle, mais aussi un grand aéronaute, passionné par toutes les aventures de l'aérostat, de ballon et de tous ces développements. Et Jules Verne est ami avec lui et ils vont d'ailleurs développer ensemble une association pour défendre le développement des aérostats.
Et la Jules société Verne, d'encouragement de la navigation aérienne au moyen du plus lourd que l'air.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Jules Verne va réaliser un très beau roman, qui s'appelle Robure le Conquérant, et qui est une sorte, c'est pas tout à fait un hélicoptère, enfin on peut dire un hélicoptère néanmoins, voilà, un objet plus lourd que l'air en tout cas, et c'est toute la dualité qu'il y a entre le ballon et l'objet plus lourd que l'air. Alors il ne s'agit pas d'un avion néanmoins, d'une sorte d'hélicoptère, d'une sorte de bateau-hélicoptère qui va prouver la supériorité de sa technicité en faisant un tour du monde. Des airs absolument extraordinaires.
Mais alors, on le disait au début de cette émission, Olivier Sosereau, il y a chez Jules Verne une fascination pour les inventions, bien sûr, mais également une crainte d'une mauvaise utilisation de la technique et de la science. C'est le sujet de son roman d'anticipation, Sans Dessus-Dessous, qui est paru en 1889. Racontez-nous le sujet de ce roman.
Sans Dessus-Dessous, c'est un roman absolument extraordinaire, de mes préférés. C'est un roman, en plus, qui fait, d'une certaine manière, suite à deux précédents romans que l'on connaît tous, qui sont De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, qui sont des romans où il met en scène des constructeurs de canons qui font partie d'une association complètement dingue qui s'appelle les Artilleurs du Gun Club, qui s'ennuient
épouvantablement au début du roman parce que la guerre de sécession a cessé et ils veulent prouver qu'ils sont les meilleurs artilleurs au monde et ils créent un canon pour tirer au boulet sur la Lune. Et donc ce sont ces mêmes personnages qui réapparaissent 20 ans plus tard, vieillis de 20 ans. On est du coup au milieu des années 1880 dans un projet totalement dingue, extrêmement inquiétant, puisque là c'est carrément l'avenir de l'humanité qui est en jeu, puisque au tout début du roman, d'une manière très mystérieuse, sans qu'on en ait tous les éléments, on découvre que une société américaine a convaincu le gouvernement américain de mettre en adjudication le pôle Nord ainsi que les 10 degrés de latitude plus au sud autour du pôle Nord afin d'en devenir propriétaire. Je rappelle que au milieu des années 1880, personne est encore allé au pôle Nord. Alors l'Europe tente de s'unir pour faire front face à l'Amérique, mais les Européens, avant l'adjudication, ont des avis totalement différents, donc se déchirent.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'idée, c'est d'exploiter les ressources énergétiques qui trouvent sous les glaces, et ce qui se vérifiera par la suite, mais ce qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque, finalement.
Voilà, absolument. Et l'idée, c'est pourquoi les Américains veulent-ils être propriétaires du pôle Nord ? C'est pouvoir exploiter les réserves énergétiques de houille et de charbon, que les savants de l'époque, effectivement, soupçonnent exister sous les glaces des pôles. Alors, quand ils deviennent propriétaires, tout le monde éclate de rire, mais ils disent, mais finalement, comment vont-ils faire pour creuser des kilomètres de glace? Et en réalité, en grand secret, ces artilleurs du Gun Club construisent un canon gigantesque de plus de 600 mètres de long dans le flanc du volcan le Kilimandjaro, et dont le coup de canon de cette machine totalement infernale, avec un explosif totalement nouveau, eh bien, va permettre de provoquer un choc de recul qui va faire basculer l'axe de rotation de la Terre d'une vingtaine de degrés de latitude, faire en sorte que le soleil éclaire et fasse fondre les glaces du pôle et permettre ainsi aux artilleurs américains de pouvoir exploiter cette réserve énergétique.
Et cela, même si c'est une catastrophe pour des populations entières, c'est aussi ce que Jules Verne dénonce.
Pour eux, ce qu'ils dénoncent, bien évidemment, alors ils dénoncent beaucoup de choses, puisque tout d'abord, ils dénoncent le fait qu'on ne pose même pas la question aux Esquimaux, aux Tchouchkis, aux Samoyèdes sur, quand même, ce pôle Nord, ces régions du Nord, il leur appartient, ils avaient un petit peu voix au chapitre, mais comme il dit, on ne les consulta même pas. Ainsi va le monde. Il est très, très grinçant, Jules Verne, voilà. Il dénonce la conférence de Berlin qui vient de se produire deux, trois années auparavant sur ce partage de l'Afrique et ce droit aux puissances occidentales de disposer du bien d'autrui, comme dit Jules Verne, d'une manière là aussi très grinçante, et puis sur les conséquences tout à fait dramatiques, mais aussi, on dirait aujourd'hui, environnementales de ce coup de canon, si jamais il est tiré, puisque vous allez avoir des territoires entiers qui vont être submergés par des eaux, les glaces vont fondre, une élévation des niveaux de la mer, des raz-de-marée considérables, et où finalement le monde va se liguer contre cette société américaine pour tenter d'empêcher ce désastre absolument effroyable. Mmh. Les Américains disaient à un moment donné, ce qui est absolument extraordinaire, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tout cela se faisait afin de rendre la Terre plus hygiéniquement habitable.
Jolie expression. Alors cette exploitation des ressources, mais aussi des hommes, on la retrouve, cette critique de cette exploitation, on la retrouve dans un capitaine de 15 ans, un roman de Jules Verne paru en 1878, dans lequel il s'élève contre la traite humaine. La traite. Personne n'ignore la signification de ce mot, qui n'aurait jamais dû trouver place dans le langage humain. Ce trafic abominable, longtemps pratiqué au profit des nations européennes qui possédaient des colonies d'outre-mer, a été interdit depuis bien des années déjà. Cependant, il s'opère toujours sur une vaste échelle, et principalement dans l'Afrique centrale. En plein XIXe siècle, la signature de quelques États qui se disent chrétiens manque encore à l'acte d'abolition de l'esclavage. On pourrait croire que la traite ne se fait plus, que cet achat et cette vente de créatures humaines ont cessé. Il n'en est rien, et c'est là ce qu'il faut que le lecteur sache. S'il veut s'intéresser plus intimement à la seconde partie de cette histoire, il faut qu'il apprenne ce que sont actuellement encore ces chasses à l'homme, qui menacent de dépeupler tout un continent pour l'entretien de quelques colonies à esclaves. Où et comment s'exécutent ces razzias barbares, ce qu'elles coûtent de sang, ce qu'elles provoquent d'incendies et de pillages, enfin au profit de qui elles se font. « La traite négrière a été officiellement interdite en 1848, Olivier Sauzereau, mais elle continue sous d'autres formes sur le continent africain. C'est ce que dénonce Jules Verne ici.
Elle continue, effectivement, et Jules Verne le dénonce régulièrement. Alors, c'est d'autant plus fort pour Jules Verne qu'il a vécu à Nantes, et que Nantes a le triste privilège d'avoir été une place parmi la plus importante, c'est-à-dire la plus importante sur cette question de la traite. Et forcément, Jules Verne a entendu des discussions sur ce et des débats dans les salons feutrés d'armateurs nantais, en sachant qu'à Nantes cette question ne faisait pas l'unanimité. Il y avait des débats sur cette question-là. Et c'est cette magie noire qui fait partie aussi de Nantes, ce commerce absolument effroyable contre lequel Jules Verne se positionne d'une manière vraiment extrêmement claire dans plusieurs de ses romans. Mais son grand roman, c'est Un capitaine de 15 ans, dont il faut d'ailleurs préciser qu'il est alors au sommet de sa gloire, Jules Verne. C'est le moment où il s'achète son plus beau navire, le Saint-Michel III, qui a été construit à Nantes. Il revient habiter à Nantes et c'est en habitant à Nantes qu'il écrit Un capitaine de 15 ans, c'est-à-dire qu'il écrit véritablement ce roman en étant au cœur même de ce qui a été le commerce triangulaire.
Et c'est effectivement des explorateurs comme David Livingstone qui vont ouvrir la voie à la colonisation, en particulier de ce qui deviendra le Congo belge, avec toutes les horreurs qui ont eu lieu. On avait réalisé une émission sur ce sujet, Entendez-vous l'écho. Dans ses mythologies, parues en 1957, le philosophe Roland Barthes écrit à propos de Jules Verne, son œuvre affiche que rien ne peut échapper à l'homme, que le monde même le plus lointain est comme un objet dans sa main et que la propriété n'est somme toute qu'un moment dialectique dans l'asservissement général de la nature. Le geste profond de Jules Verne, c'est incontestablement l'appropriation. Est-ce que vous partagez ce point de vue de Roland Barthes ?
C'est très bien dit, oui, effectivement. Alors, on peut effectivement tout à fait contester cette idée, mais qui est très d'actualité du 19e siècle. Comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, c'est le triomphe de la science de Newton. C'est le moment où on a les moyens techniques, mesurer la distance des étoiles, de découvrir une planète uniquement par le calcul, d'avoir les moyens de déterminer sa position sur l'océan, de cartographier le monde. Et sans nul doute que le héros de Jules Verne, ne fait pas tout à fait partie de la nature. C'est un être à part. L'humanité, effectivement, se pouvoir de s'approprier le monde, de défier la nature. Et bien évidemment, notre regard sur le monde a quelque peu évolué sur ce point-là.
Et en même temps, il est l'un des premiers à dénoncer le productivisme à outrance. Il dénonce par exemple la chasse à la baleine. C'est pas si courant que cela à l'époque.
J'attendais que vous rebondissiez. Et en même temps, Jules Verne est très critique, effectivement, sur une mauvaise évolution par rapport à la nature. Il y a beaucoup de romans où Jules Verne va dénoncer notamment la pêche intensive de la baleine. C'est dans 20 milieux sous les mers. Il y a un passage qui est tout à fait extraordinaire, mais ça revient dans le Sphinx des Glaces. C'est très présent aussi dans un roman qui s'appelle Le Pays des Fourrures, où Jules Verne dénonce cette chasse intensive, des bêtes à fourrure qui finiront par ne plus exister si cela continue. Mais vous avez aussi d'autres passages absolument extraordinaires. Je pense à un roman très peu connu qui s'appelle Famille sans nom. C'est un roman tout à fait exceptionnel où Jules Verne dénonce l'oppresseur britannique contre les Canadiens. Et il dénonce en même temps la destruction de la forêt. Il dénonce les massacres des arbres. Il finit d'ailleurs son texte en disant « Ne dirait-il pas de ces impitoyables dévastateurs ce qu'on dit des fermiers qui épuisent la fécondité terrestre par des pratiques vicieuses ? Ils ont assassiné le sol, nous dit-il. » Extraordinaire.
D'où lui vient cette intuition, Olivier Sauzereau, que finalement, si on exploite la nature, les ressources ne seront pas infinies ?
Alors, je n'ai pas étudié cette question-là, je dois vous l'avouer, donc ce sera uniquement qu'intuitif. Je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, très certainement que ce sont des choses qu'il a lues. Il en est en tout cas sensible. Je ne pourrais pas vous répondre quelles sont ses sources sur ce point-là.
Mais c'est intéressant, effectivement, de voir que cette question de l'exploitation intensive de la nature est déjà présente dans son œuvre. Alors, on arrive presque au terme de cette discussion, Olivier Sauzereau. Pour conclure, pourquoi est-ce qu'il faut lire Jules Verne aujourd'hui, selon vous ? Et qu'est-ce qui nous apprend, en particulier, sur l'économie à travers ces innovations et cet imaginaire de l'invention ?
Je pense que Jules Verne nous parle toujours. Hein. C'est un auteur qui n'est pas proprement parlé un auteur de science-fiction, quoi qu'il puisse y avoir débat là-dessus. C'est un auteur d'anticipation. C'est un auteur qui a ce génie de pouvoir s'imprégner des découvertes techniques et scientifiques de son époque et de créer des situations absolues. Exemple, le sous-marin Nautilus. Voilà, il n'en est pas du tout l'inventeur, bien évidemment, mais il ne fait que créer une situation absolue et de nous dire voilà ce qui pourrait se passer avec l'utilisation d'une telle machine. Voilà ce que l'on pourrait vivre, voilà ce qu'on pourrait exploiter, voilà ce que l'on pourrait découvrir. Et en cela, Jules Verne a un regard sur la société, sur l'humanité, sur une mauvaise pratique de la technique, sur l'exploitation qui nous parle au jour d'aujourd'hui, qui est plus que jamais, à mon sens, d'actualité.
Et voilà, qui nous donne aussi des idées de lecture et de cadeaux à offrir pour Noël. Je retiens pour ma part Sans Dessus Dessous et Famille Sans Nom. Merci beaucoup, Olivier Sauzereau, de nous avoir fait redécouvrir les voyages extraordinaires de Jules Verne. Alors, je précise que vous allez publier au début de l'année prochaine une bande dessinée sur la vie de Jules Verne aux éditions Petit à Petit. Et les auditeurs peuvent également découvrir la Jules Verne Saga, votre série en ligne, qui revient en détail sur chaque roman de Jules Verne. On mettra le lien sur la page de l'émission. Un immense merci. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Alors que la BCE étend son rachat de dettes des États à la Banque Centrale Européenne, la question de leur remboursement fait de nouveau débat. Certains réclament une annulation pure et simple. Alors est-ce que c'est un débat technique et politique ?
Eh oui, effectivement, c'est du vrai Jules Verne, en tout cas, Tiffaine. C'est 300 milliards d'euros de dette Covid. C'est l'autre face du quoi qu'il en coûte. Et dans le contexte d'incertitude actuelle, imaginer son remboursement, eh bien, c'est comme aller sur la face cachée de la Lune avec un tracteur télécommandé. Car si la BCE entend poursuivre jusqu'à au moins 2022 son programme de rachat d'urgence avec désormais 1850 milliards d'euros d'obligations d'État acquises, seuls 5 pays de la zone euro conservent une dette publique inférieure à leur PIB, leur produit intérieur brut, et avec un quart de la dette totale, la France est effectivement dans une situation délicate pour sa crédibilité. C'est celle de l'Italie il y a 20 ans, se désole Marc Toiti dans Capital, près de 120% du PIB à la fin de l'année, et la pression augmente. Le FMI a récemment réclamé un plan crédible et ambitieux de rééquilibrage, axé, dit-il, sur des réformes budgétaires structurelles. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a lancé un groupe de travail qui doit rendre un rapport en février, et pour l'instant, note l'éditorialiste des Échos Jean-Marc Vittori, la dette publique flambe, mais sa facture est gelée.
Alors comment pourra-t-on la rembourser alors qu'il faut encore relancer l'économie, Xavier ?
Eh bien, les perspectives de remboursement classique sont limitées et douloureuses. Ou plus d'impôts, ou de l'argent plus cher, l'inflation, ou d'autres solutions de répression financière pas plus agréables ni justes, rappelait déjà Jean Pisani-Ferry au printemps dans Le Monde. Et ces solutions demanderaient de toute façon le retour à une croissance forte et durable. À défaut, ce serait la restructuration, comme pour la Grèce en 2011. Alors, pour éviter une cure d'austérité budgétaire, dit Jezabel Coupé-Soubéran dans The Conversation, la solution est plutôt radicale, annuler la dette Covid détenue par la BCE, dette à perpétuité sans intérêt ou annulation d'un coup de crayon. Pour elle et plusieurs chercheurs et élus, en tout cas, la BCE pourrait neutraliser sans dommage la dette des États afin de leur permettre de réinvestir au plus vite plutôt que de plomber les ailes de la relance avec les intérêts.
Et c'est justement ce qu'il ne fallait pas dire ?
Oh que non, puisqu'en revendiquant une position iconoclaste, eh bien Jezabel Coupé-Soubéran et ses collègues sont aussitôt accusés d'user du mythe de la monnaie magique, de tour de passe-passe à destination des marchés ou de tentative de conversion à l'économie voodoo, en tout cas de péché contre la démocratie, disent les économistes proches du gouvernement, Jean Pisani-Ferry, donc le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ou encore l'économiste en chef à la Direction Générale du Trésor et ancienne collègue Agnès Benassi, Kéré. Pour elle, l'annulation n'est ni légale, ni utile, ni souhaitable, contraire aux traités européens qui interdisent le financement direct par les banques centrales, sans intérêt d'un point de vue financier, et dangereux pour la Banque Centrale Européenne qui deviendrait une simple annexe des 19 trésors de la zone euro, écrit-elle. Moralisme rhétorique, rétorquent les partisans de l'annulation, car en rachetant leurs dettes aux États et en leur reversant les dividendes via des taux négatifs, la Banque Centrale Européenne leur permet déjà de se refinancer en interne, disons à bon compte, sans intervenir directement. Et pour égayer la bataille d'arguments techniques, on se jette finalement à la figure Mendes France, pour qui gouverner c'est choisir, et Max Weber qui ironise sur la religion de la monnaie.
Et plus qu'une crise de surendettement, il s'agit d'abord d'une crise de la stratégie financière publique.
Oui, là, le problème concret, c'est la monétisation, voire la surmonétisation actuelle, pathologique même, dit Agnès Benassi-Kéré. Trop de monnaie pour trop peu d'investissement. Ce sont 10 000 milliards de dollars d'actifs à taux négatif dans le monde, rappelle Jean-Marc Vittori. Et à ce moment crucial où la dynamique monétaire et économique manque de souffle, la déflation est suivie de près, disait encore Christine Lagarde, eh bien, deux visions stratégiques de la dette et du rôle de la BCE s'oppose. Pour Agnès Benassi-Kéré, c'est une ressource pour lubrifier le système et un gage d'honorabilité. Pour Jezabel Coupé-Souberan, c'est un boulet fiscal potentiel et une épée de Damoclès sur l'autonomie politique des États.
Alors est-il plus sain d'annuler ou de rembourser la dette du Covid ?
Eh bien, ni l'un ni l'autre, Tiphaine, avance Patrick Artus dans Le Point. En tout cas, le plus sage, dit-il, est d'attendre, car 31% de la dette publique revient à la BCE, explique-t-il, mais 89% sont détenus par des investisseurs privés, banques et épargnants, et les rembourser aussi est dangereux, puisque si l'État rembourse les investisseurs privés, ils devront trouver des marges et des rendements ailleurs avec des forts risques cette fois, et s'ils remboursent la BCE, eh bien c'est un risque de crise de l'euro et de crise bancaire. Alors, il y a crise lorsque la vérité entre en conflit avec le temps, disait le philosophe Gilles Deleuze. L'argent pas cher, la dette sans risque et le rôle que font jouer les États à la Banque Centrale Européenne. C'est cela, l'autre face du bazooka monétaire, le projectile qui fond ou qui revient.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et bonne fête à vous.
À vous aussi.
This is my favorite time of year. Can you feel the soul? It's so soulful, soulful Christmas. It can feed your heart and soothe your soul. It's so soulful, soulful Christmas. One that could surely make you whole. You just sit back and relax and let your mind you for a stroll. Makes you roll, makes you roll, while the music takes control. It's a soulful, soulful Christmas. It can feed your heart and soothe your soul. It's a soulful, soulful Christmas. One that could surely make on that open fire, while dreaming of a white Christmas. Don't forget to make your soulful desires. It's a soulful, soulful Christmas. It can feed your heart and soothe your soul. It's a soulful, soulful Christmas. One that could surely make you
C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Auvine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Souad Boukorsa. Demain, demain, on s'intéresse à l'économie de la culture. Est-ce la fin de l'exception française? On posera la question à une économiste, Françoise Benamou, et à deux sociologues, Lou Wolf et Chloé Langeard. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.